Bonsoir à chacun. Pouvons dès à présent ouvrir la Bible dans Ecclésiaste. Et je suis venu à la pensée de ce message alors que quelqu'un de l'Église m'a envoyé une question sur un verset des Ecclésiastes. Question assez compliquée. Mais finalement, je me suis replongé dans ce livre et je me suis aperçu qu'il y avait des trésors qui étaient cachés dedans. Et je voudrais qu'on puisse lire donc Ecclésiaste chapitre 1er, verset 1er. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 1er. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a une question qui est cachée. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Si vous avez lu le livre des Ecclésiastes, vous avez vu qu'il y a plein de questions. Mais il y a une question qui est cachée et qui a répondu, c'est est-ce que la vie peut avoir un sens sans la foi en Dieu? Et je crois que c'est une bonne question. Ce soir, on va essayer de répondre à cette question. Ecclésiaste 1.1, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, on lira d'autres textes qui sont plus réjouissants que cela. Mais c'est déjà une bonne... Il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, qui sont intéressantes. Et dans le livre de l'Ecclésiaste en général, tout entier, si on l'étudie, on se rend compte qu'il y a deux visions, deux façons de voir. Il y a cette vision qui est imagée par cette expression « sous le soleil ». Plusieurs reprises, il est question des choses qui se font sous le soleil, et ça nous parle de la vision de la sagesse humaine. Les personnes qui sont une certaine intelligence, Salomon était l'homme, un des plus intelligents de la terre, parce que Dieu lui avait accordé la sagesse, et il y a la sagesse qui est humaine, qui nous permet de comprendre certaines choses. Mais il y a cette sagesse humaine qui passe à côté de la sagesse qui vient de Dieu, et qui nous permet de comprendre les choses spirituelles. Et il y a ces deux regards dans ce livre. Ce regard de la sagesse humaine qui est limitée, qui nous permet de dire certaines choses qui sont très pessimistes, très négatives. Il commence bien ce monsieur, mais il dit que finalement tout ne sert à rien. Vanité des vanités, tout est vanité. On connaît cette expression. Et pourtant c'est pas quelque chose de réjouissant. Tout est vanité. Il y a plusieurs aspects comme ça. Trois pensées dans ce point de vue négatif. Tout est vanité, tout est poussière, tout est jugé. Première chose, tout est vanité. On l'a lu, vanité des vanités, tout est vanité. Et quelque part ailleurs, il est dit, tout est poursuite du vent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de poursuivre le vent. Moi, j'ai essayé de poursuivre un ballon que mon fils avait perdu alors qu'il y avait du vent. Et c'est un sacré travail. C'est presque impossible quand il souffle comme il a soufflé il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier. Et en tout cas, ça ne sert à rien. On se rend compte que c'est une œuvre qui ne sert à rien. Et l'Ecclésiaste, il prend plusieurs exemples de la nature qui nous montrent qu'il y a des cycles qui sont là perpétuels et qui nous donnent une certaine pensée. Le soleil, il se lève, il se couche. Et ça, c'est comme ça tous les jours, inlassablement. Une fois qu'il s'est levé, il repart dans son circuit. Le vent se dirige dans un sens, puis dans un autre, puis il revient. Des fois, il s'arrête, des fois, ça part à la tempête. En tout cas, c'est toujours comme ça. Les fleuves, comme il est dit, ils vont à la mer. Et continuellement, il y a le cycle de l'eau. Aujourd'hui, on a des beaux schémas sur Internet qui nous expliquent le cycle de l'eau. Mais en tout cas, on se rend compte que ça va jusqu'à la mer. Après, il y a je ne sais plus quel phénomène scientifique qui permet que ça l'évaporation, voilà. J'avais oublié le nom, qui permet que ça devienne des nuages et qu'il y a à nouveau le ruissellement, etc. Et c'est des cercles continuels, inlassables. Et d'entre vie, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se poser cette question. Est-ce que la vie peut avoir un sens sans la foi en Dieu? Parce que dans notre vie, c'est pareil. Si on considère tout de la manière humaine, sous le soleil, sans considérer la lumière de la parole de Dieu, on se rend compte que c'est pareil. Il y a des cycles. Il y a des saisons, il y a des moments où le soleil brille dans notre cœur, des moments où tout va bien, tout nous réussit, Et puis il y a d'autres jours où c'est le ciel qui est sombre, c'est les ténèbres, on n'arrive plus à discerner l'avenir, on pense que c'est fini, on pense qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a des moments où il y a la tempête, il y a le vent, ça trempe, ça secoue. Et puis il y a des moments où tout est calme, tout est apaisant. Il y a des moments où on a une soif incroyable, et ça c'est tous les hommes qui sont de cette même nature-là, ils ont une soif de remplir leur cœur. Et l'Ecclésiaste, c'est Salomon, et il avait une position particulière parce que lui, il avait tout ce qu'il lui fallait du point de vue humain. Il avait la sagesse, il avait un grand nombre de femmes, il avait des maisons en pagaille, il avait... Je ne dis pas qu'il faut avoir un grand nombre de femmes, j'en entends certains penser là. Attention, parce que ça lui a causé des problèmes, hein, si on regarde l'histoire. Il y avait un proverbe en Afrique où il disait « Une femme, un problème, deux femmes, 10 problèmes ». C'est exponentiel. Donc, je préfère même pas m'aventurer dans ce domaine-là. 3, il ne faut pas imaginer. En tout cas... Oui, c'est pareil dans l'autre sens. Mais en tout cas, Salomon, il avait une position particulière parce qu'il avait... il a goûté à la richesse. Il a goûté même au plaisir de ce monde. Il a goûté à beaucoup de choses. Et ce livre, c'est un peu le bilan de tout ce qu'il a vécu. Et il y avait ce verset dans le chapitre 2, au verset 10. Regardez ce qu'il dit quand même, cet homme. « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à en tirer sur ce qu'on fait sous le soleil. » Vous vous rendez compte? Pourtant, comme je disais, il avait la sagesse, il a fait des projets ambitieux, il a détourné des rivières pour faire des lacs, pour arroser des vignes. Si vous lisez le chapitre 2, vous voyez tout ce qu'il a pu faire. Et il avait les meilleurs chanteurs, la meilleure musique possible à l'époque. Et pourtant, son cœur était vide. Et c'est exactement ce dont il parlait quand il disait que les torrents vont à la mer continuellement, et la mer n'est jamais remplie. Il y a dans le cœur de l'homme un vide, et toutes les sources de ce monde sont là pour essayer d'abreuver ce vide, essayer d'altérer cette soif. Mais il n'y a rien qui peut remplir le cœur de l'homme. Il n'y a rien qui peut le faire, rien d'ici-bas en tout cas, de point de vue de la sagesse humaine. Et regardez ce qu'il disait encore. « Les yeux ne sont pas rassasiés », c'est ce qu'on a lu tout à l'heure en verset 8 du chapitre 1er, « les oreilles ne sont pas lassé d'entendre. » Imaginez quelqu'un qui peut-être a fait le tour du monde et qui a vu beaucoup de choses, tous les pays, il a ramené un souvenir, il a rencontré beaucoup de cultures, il a visité tous les monuments qu'il fallait visiter et qui va se permettre de dire « Maintenant que j'ai vu tout ça, ben je peux mourir. » Est-ce qu'on trouve ça logique? Ou quelqu'un qui va dire ben, « J'ai assez entendu de choses dans ma vie, ben, mais aujourd'hui c'est bon, je peux m'arrêter d'entendre. » Je peux demander la mort. On n'est pas comme ça, hein ? Parce qu'on se rend compte, à notre époque, et on le voit beaucoup aujourd'hui, mais quand une personne âgée qui a vécu beaucoup d'années, quand elle commence à perdre un peu la vue, qu'est-ce qui se passe ? Hop, tout de suite chez l'ophtalmo, pour avoir des lunettes, l'opticien, pour avoir des lunettes. Tout de suite, quand il y a un problème d'oreille, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il me faut un appareil pour que j'entende. On n'est pas lassé de voir, on n'est pas lassé d'entendre. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on puisse dire, mais non, c'est bon, aujourd'hui j'ai assez vu, j'ai assez entendu quelque chose. Et je pensais à ce passage de Luc, chapitre 2, un homme qui avait fait une prière et qui justement est bien dans ce cadre-là. Luc, chapitre 2, il est question d'un homme qui s'appelle Siméon, et au verset 25, il est dit ceci, « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. » Vous voyez qu'il y a, Il n'y a pas de raison à la sagesse humaine pour dire que ça y est, j'ai vu cela et maintenant je peux mourir. Mais il n'y a que quelqu'un, une personne qui peut nous amener à avoir cette pensée. Si je reçois le Seigneur Jésus, si je vois le Seigneur Jésus d'un point de vue de la foi, je peux dire, ben c'est bon, je peux mourir en paix. Non pas que je vais courir après la mort, mais j'ai une assurance. Je peux dire, mais c'est bon, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir ici-bas. Le principal, en tout cas, même si après le Seigneur me permet de vivre plus longtemps pour accomplir des œuvres, tant mieux, mais en tout cas, j'ai mon salut. J'ai vu le Seigneur Jésus, et c'est exactement ce que dit cet homme. Tout est vanité, tout est poussière. La vanité, ça nous parle de cette futilité de la vie. La poussière, ça nous parle de la fragilité de la vie. C'est un autre cycle de l'humanité, mais la Bible dit que l'homme a été formé de la poussière et qu'un jour, l'homme repartira à la poussière. Ecclésiaste, on revient dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20, il est repris cette pensée. Ecclésiaste 3, 20, il est dit exactement, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Vous voyez, c'est un cycle encore. On est venu de la poussière et on sait que quand on va mourir, eh bien, ce qui va rester de nous, du point de vue de la sagesse humaine, encore une fois, c'est la poussière de notre corps. Qu'est-ce que l'homme peut amener avec lui dans l'au-delà? Rien, rien d'ici pas. On est d'accord. La maison, je pensais à ça. Moi, j'ai fait bâtir une maison quand je travaillais avant et je me disais, mais dans 150 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, qu'est-ce qui va rester de ma maison? Vous voyez? Au mieux, quelqu'un l'aura restaurée, ou alors elle sera peut-être en ruine, ou alors il y aura quelqu'un qui aura rasé, qui aura fait un supermarché dessus, je ne sais pas. Vous voyez? Ça sera que de la poussière, ma maison. Ma voiture, elle sera où dans 150 ans? Elle sera à la casse, elle sera je ne sais pas où. Peut-être dans des boîtes de conserve, elle aura été recyclée. Vous voyez? Tout retourne à la poussière. Tout ce qu'on a, toutes nos possessions, notre argent même. Peut-être le billet de 5 euros que j'ai dans mon porte-monnaie. Je ne sais même pas si j'en ai un, mais si j'en avais un, dans 150 ans, attention, hein, je te surveille. Dans 150 ans, où c'est qu'il sera? Il sera peut-être brûlé, le billet lui-même, je parle. Vous comprenez? Notre argent, on ne peut pas l'emporter avec nous. Et notre vie, elle est fragile. Il y a une fragilité dans notre vie, mais nous savons qu'il y a quelque chose que Dieu peut nous donner, cette chose-là n'est pas fragile. Et je pensais à ce que le Seigneur veut nous donner, on l'a chanté au travers de ses chants, il veut nous donner la vie éternelle. Il veut nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il veut nous donner quelque chose qui, après notre mort, va persister. Et ça, il n'y a rien dans ce monde, aucun torrent de ce monde ne peut donner cette vie éternelle. Il n'y a que la source d'eau vive qui est le Seigneur Jésus qui peut nous donner la vie éternelle. Il faut simplement l'accepter. Il y a des conditions pour la recevoir et ces conditions, ça passe par cette étape. Tout est jugé. Là, il y a une finalité à notre vie. Ecclésiaste 8, verset 6, regardez ce qu'il est dit. Un simple verset encore une fois. Ecclésiaste 8, verset 6, il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Il y a pour toute chose un temps et un jugement. Et si on y réfléchit, je prenais l'exemple du baccalauréat, les examens. Il y a le moment de l'épreuve du baccalauréat, et puis il y a le jour où on sait si on est accepté, ou si on l'a eu ou si on ne l'a pas eu. C'est le jour où les gens en pleurent, où les gens rient. Vous voyez, il y a ce jour-là, le jour du jugement. Et pour notre vie, c'est la même chose. La vie entière sur terre, c'est ce temps que Dieu dans lequel Dieu nous met à l'épreuve. Et il y a le jour du jugement où Dieu fait un peu le bilan de notre vie, il nous demande des comptes. Il y a un temps et il y a un jugement. Et nous savons que toute chose, il y a pour toute chose un temps et un jugement. Donc dans tout ce que nous faisons, nous serons appelés à être jugés. Et ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est de savoir que son jugement sera parfait. Parce qu'il connaît tout. Il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il a tous les éléments en main. Son dossier sur nous, il est béton. Mais ça sera pour ou contre nous. Mais non pas en fonction de ce qu'on aura fait de bien ou de mal, forcément. Mais surtout de savoir, est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur ? Et par la suite, si tu as accepté le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as fait de cette foi-là que le Seigneur t'a permis d'avoir ? Et en tout cas, Hébreux chapitre 4, verset 13, je le lis pour vous, nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, à la fin de ce discours de sagesse et de réflexion humaine, il y a quand même cette portion de vision spirituelle qui s'ouvre enfin et qui nous dit ce verset-là, et Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, qui dit justement « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Est-ce que vous aimeriez pas que tous les juges de la terre, ils aient tous les éléments qui sont cachés pour juger les affaires ? Si on vous fait du tort, mais qu'on leur révèle tous les éléments cachés, vous allez dire, mais ils vont pouvoir enfin appliquer la justice de manière incroyable. Mais Dieu, c'est ce qu'il va faire. Et Dieu va appliquer sa justice envers les œuvres que nous aurons faites, mais surtout d'abord envers notre cœur. Est-ce que nous aurons reçu le Seigneur Jésus dans notre cœur ? Est-ce que nous aurons accepté que sans Dieu, sans la foi en Jésus-Christ, notre vie, elle perd tout son sens ? Si on s'arrête que aux choses matérielles, on se rend compte que tout ce que nous pouvons avoir, c'est passager. Ça ne dure qu'un instant, c'est éphémère. Mais ce que le Seigneur Jésus peut donner, ce que la foi en Dieu peut donner, ce sont des choses qui sont éternelles. Et justement, je voudrais maintenant qu'on regarde la vie à la lumière du Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu. David a pu dire, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est très bien de regarder ce qui se passe sous le soleil d'un point de vue humain, mais combien c'est intéressant d'avoir le point de vue de Dieu. Et il y a trois paroles que le Seigneur Jésus a prononcées qui sont tellement intéressantes et qui nous apprennent, qui nous font comprendre le sens de la vie avec la vision de Dieu. Première parole, elle se trouve dans... Alors, elle se trouve où ? Elle se trouve... Je ne l'ai pas marquée. C'est pas grave. C'est la parole de Jésus sur la croix. Une simple parole où il est dit... Tout est accompli. Le moment le plus terrible de l'histoire de Jésus, quand il est en train d'être crucifié sur une croix, il va bientôt agoniser, une des dernières paroles qui dit « Tout est accompli ». Et cette parole-là, ça nous indique quoi ? Que Dieu nous donne son pardon pour notre vie passée. À cause du péché, Dieu avait demandé aux Israélites, aux Hébreux, de pratiquer toutes sortes de sacrifices pour que leur péché soit couvert le temps d'une journée ou le temps d'une année, en fonction du sacrifice qu'ils faisaient, de culpabilité, etc. Et dès qu'il y avait un problème de péché dans leur cœur, qu'ils s'en rendaient compte, il fallait qu'ils aillent voir le sacrificateur, il fallait qu'ils prennent un animal avec eux, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Et la différence avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, c'est que quand il fait quelque chose, c'est éternel, c'est ce que je disais, mais c'est indiqué dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, il y a ce verset qui est quand même une des conclusions que cet homme, qui réfléchissait beaucoup, qui avait cette sagesse, a pu dire par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à ce que Dieu fait, contrairement à ce que les hommes font beaucoup de choses, mais ça dure pas comme on le disait, mais quand Dieu fait quelque chose, regardez ce qu'il est dit, « J'ai reconnu, Ecclésiaste 3, 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Et Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Et des fois, on ne comprend pas le sens de notre vie parce que justement, il y a ces futilités, tout ce qu'on fait c'est vain, tout ce qu'on fait c'est fragile, on sait qu'un jour ça sera fini de toute façon, mais Dieu permet que la vie soit comme ça pour que nous puissions réfléchir et que nous puissions nous amener à comprendre qu'on a besoin de le craindre. Et comprendre que ce que lui fait, c'est des choses qui sont éternelles. Et justement, quand il a dit « tout est accompli », c'est parce qu'il avait fait le sacrifice qui était parfait, qui n'avait pas besoin de reproduire. Dans Hébreux, il est dit qu'il n'a pas eu besoin de souffrir plusieurs fois. Mais maintenant, et à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Un seul sacrifice. Dieu, il a dû donner qu'un seul sacrifice, le sacrifice de son Fils. Jésus, il a dû donner un seul sacrifice, le sacrifice de sa propre vie. Mais ce sacrifice-là, ça suffisait. Et c'est suffisant. Et pour aujourd'hui, on peut en croyant ce sacrifice, être au bénéfice de ce pouvoir du sang de Jésus qui a coulé et qui peut laver notre cœur si nous l'acceptons. Quand Dieu fait quelque chose, ça dure. Donc quand Dieu pardonne, il le fait bien. Il lave notre cœur, il oublie notre passé. Quand Dieu nous donne son pardon qui est éternel, c'est pour que justement notre vie passée soit effacée et que les blessures peut-être qui sont là à cause de ce qu'on a vécu, elles soient guéries. Pour que si nous avons besoin de trouble, si nous avons besoin de paix, si nous avons besoin de bonheur, si nous avons besoin de ce repos, le Seigneur est capable de nous donner ces choses. Alors que nous avions peut-être la confusion, alors que nous avions le trouble, alors que nous avions toutes sortes de pensées qui étaient là, qui nous embêtaient, quand on accepte le pardon de Dieu. Eh bien, simplement, sa grâce infinie, sa paix surnaturelle, elle envahit notre cœur, elle nous garde en Jésus. La seule chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de recevoir son pardon. Comment je reçois le pardon de Dieu? Ben, quand je me repens, quand je demande pardon pour mon péché, et quand je crois que le sang de Jésus me lave de tout péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit la Bible. Le sang de Jésus a coulé, donc il n'y a pas besoin d'autre sang, il n'y a pas besoin d'autre personne mise à mort, parce que ça ne servira à rien, on n'est que des hommes. Il n'y a personne qui peut racheter notre âme, si ce n'est le sang du Seigneur Jésus. Lui, il a donné le sacrifice parfait. Quand Dieu fait quelque chose, c'est éternel, ça dure. Et deuxième parole de Jésus, qui est écrite celle-ci dans Matthieu chapitre 22, quand il parle d'une certaine parabole, il compare le royaume des cieux à un roi qui fait des noces. Et à un moment donné, il dit « Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. » Et il y a cette parole « Tout est prêt, venez aux noces. » Et il y a différentes personnes qui viennent se greffer dans l'histoire sans s'inquiéter de l'invitation. Il y en a qui s'en vont. Il y en a qui vont à leur champ, celui-là va à son trafic. Les autres se saisissent des serviteurs qui sont venus donner l'invitation, et les outragent et les tuent. Tout ça, c'est marqué dans Matthieu chapitre 22. Mais à un moment donné, il y a le roi nouveau qui dit « Les noces sont prêtes, mais les conviés, ceux qui ne se sont pas inquiétés de ces choses, ils n'en étaient pas dignes. » Les conviés n'en étaient pas dignes. Et il y a, vous savez, sur terre, je le disais, les hommes font des maisons, mais ces choses-là, ça passe. Mais Jésus nous fait une promesse bien plus grande, bien plus importante, c'est-à-dire qu'il nous prépare une demeure dans son ciel. Et quand Jésus dit « tout est prêt », ça veut dire que Dieu nous donne la promesse pour notre vie future. Ça nous donne cette promesse, cette espérance pour notre futur, cette assurance que quand je serai, après la mort, je serai dans la présence de Dieu. Dans Jean 14, Jésus a dit « que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi ». Et qu'est-ce qu'il dit après? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous désirez être avec le Seigneur Jésus après votre mort, bien sûr? Par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit, il est présent au milieu de nous maintenant, mais on a cette espérance, cette promesse du Seigneur Jésus que après la mort, on sera avec lui et qu'en ce moment même, il est en train de nous préparer une demeure. C'est quelque chose de fou quand je réfléchis à cela. En ce moment même, il est dit, c'est Jésus qui le dit, il est en train de nous préparer une demeure à chacun. Et quand il aura fini cela, il viendra nous chercher. Vous imaginez que ça va être joli, ça va être magnifique. Tout est prêt, en tout cas. Tout est prêt. Ça, c'est cette image qui nous montre qu'un jour, tout sera fait et préparé et le Seigneur va pouvoir revenir. Mais en attendant, il y a cette invitation qui est lancée. Est-ce que nous voulons saisir cette invitation? Ne faisons pas comme ces personnes dont je parlais tout à l'heure, qu'il est question, qu'ils disaient sans s'inquiéter de l'invitation. On l'a chanté tout à l'heure, qu'on était invité. Et la conclusion de cette parabole, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, ou on pourrait le dire autrement, il y a beaucoup d'invités. Et Dieu, ce soir, lance une invitation encore à tout le monde. Mais il y a peu d'élus. Et les élus, ce n'est pas des gens qui ont mérité quoi que ce soit, ce sont des gens qui ont répondu simplement à l'appel. Ce soir, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous voulons nous placer notre espérance dans les promesses de Dieu, ou est-ce que nous voulons nous inquiéter des choses d'ici-bas, qui ne durent pas. Et pendant peut-être des années, on va passer du temps à chercher les choses d'ici-bas, avoir de l'argent, le compte plein à craquer, et puis avoir le cœur vide. L'Ecclésiaste parle d'un homme qui pourrait, il prend un exemple d'un homme qui pourrait multiplier les années sur la terre, vivre 200 siècles, mais s'il n'a pas Dieu, à quoi ça sert? Tout est vain. La seule chose qui peut remplir le cœur, c'est la présence de Dieu. Et la troisième parole que Jésus a pu prononcer dans une autre circonstance, face à un homme qui cherchait Dieu, qui voulait savoir comment avoir la vie éternelle, et puis qui s'est rendu, peut-être lui s'est pas rendu compte, mais les autres qui étaient autour de lui se sont rendus compte qu'il y avait un obstacle à cette recherche, c'était son amour de l'argent. Les disciples, devant cette situation, ils ont dit, mais qui peut être sauvé? Jésus, il a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et ça nous parle que Dieu nous donne sa présence pour notre vie présente. Est-ce que vous qui connaissez le Seigneur, vous avez cette joie de savoir que par le Saint-Esprit, Dieu habite dans votre cœur? Moi, je pensais à ce verset où le Seigneur, c'est l'apôtre Paul, je crois, qui parle que comme quoi, Dieu n'habite pas, ou c'est Étienne plutôt qui dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Mais par le Saint-Esprit, il habite dans les personnes. Combien c'est une bénédiction de savoir que par le Saint-Esprit, Dieu est habite en nous. Regardez Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Normalement, vous n'êtes pas trop loin. Regardez cette parole. Il, donc Dieu, fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais tout ce que Dieu fait, c'est beau, c'est parfait, c'est magnifique. Tout est possible à Dieu, et Dieu est capable de faire des choses incroyables. Mais il y a un autre verset que Jésus a prononcé également, ou qui commence de la même manière, tout est possible, mais cette fois-ci, tout est possible à celui qui croit. Face à une personne qui était dans une situation difficile, son fils qui était possédé par un démon, et Jésus qui était là et qui était prêt à le bénir, cet homme a dit, mais si tu peux faire quelque chose, Jésus a dit, oui, tout est possible à celui qui croit. Moi je peux, mais si toi tu crois, le Seigneur est capable, le Dieu va être capable d'exaucer ta prière, parce que Dieu est puissant, Dieu, et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il nous faut nous mettre notre foi dans la personne de Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous apporte son salut, celui qui veut apporter la guérison. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et je veux finir avec cette pensée. Une histoire que j'ai trouvée intéressante, même un peu marrante, mais qui résume bien cette pensée que tout ce que Dieu fait est parfait, même quand on ne le comprend pas. Il y a des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne m'aventure pas trop là. Il y a beaucoup de fois où quand il y a des choses qui nous arrivent, on ne les comprend pas. Et il y avait un homme qui était très riche, qui avait un serviteur qui passait son temps, parce qu'il connaissait le Seigneur, ce serviteur, et passait son temps à dire, patron, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait, et il ne se trompe jamais. Et il disait tout le temps ça, en toutes circonstances. Dès qu'il arrivait un pépin, ne vous inquiétez pas, Dieu ne se trompe jamais, tout ce qu'il fait est parfait. Un jour, ils vont à la chasse, et le serviteur, il est là, et il est à côté de son maître, et le maître, il chasse, je ne sais plus ce qu'il chassait. En tout cas, il y a un léopard qui vient, et qui commence à attaquer le maître, et qui commence à lui se bondir dessus, le fait tomber de son cheval, et le serviteur qui est là, il essaie de défendre le maître, et il essaie de s'en sortir comme il peut, et il arrive à viser le léopard, il le tue, mais juste avant de mourir, ce léopard, il donne un coup de griffe, et il arrache un doigt au maître. Et le maître, il vient voir son serviteur, il lui dit, mais tu vois, si Dieu était bon, il n'aurait pas permis que ça arrive. Et ce serviteur, il est là, il dit, Dieu, tout ce qu'il fait est parfait, il ne se trompe jamais. Le maître, il se met dans une fureur pas possible. Ah oui, il se trompe jamais, regarde, ma main, il me manque un doigt maintenant. Et qu'est-ce que tu veux dire à ça? Allez, tu vas aller en prison pendant une semaine. Et donc le gars, il va en prison. Et puis, quelques temps après, le maître il part à la chasse, encore à la chasse, et là, son serviteur est toujours dans la prison, et puis il chasse. Il n'a pas de bol avec les moments où il part à la chasse, parce que cette fois-ci, c'est une tribu de personnes qui offrent les gens en sacrifice vivant à leur dieu, qui les capturent. Ils capturent toute l'équipe, et Cet homme est pris dans cette tribu-là et il croit que son dernier heure va arriver. Il est prêt, les gens viennent le chercher pour amener au sacrifice. Et puis tout à coup, il y en a un qui le regarde et puis il se rend compte qu'il y a un problème de sacrifice. Il n'est pas complet cet homme-là, il n'est pas bon ce sacrifice, il lui manque un doigt. On ne peut pas le sacrifier. Allez, va-t'en de chez toi et rentre à ta maison, on ne peut pas te sacrifier, tu n'es pas parfait. Puis cet homme, il revient dans la prison, il va voir son serviteur, il lui dit « Ah, mais c'est vrai que Dieu est bon, il m'a épargné parce qu'il me manque un doigt. » C'est incroyable. Mais j'ai encore une question pour toi. Parce que si Dieu était si tellement bon, pourquoi il a permis que tu ailles en prison ? Et le serviteur, qui est très, très intelligent, il a dit « Mais c'est très simple, si je n'étais pas en prison, ben c'est moi qui serais en train d'être sacrifié parce que moi, je n'ai pas le doigt qui manque. » Tout ce que Dieu fait est parfait. Des fois même un peu, alors celle-là c'est un doigt, c'est vrai que c'est quelque chose d'important quand même, mais ça peut être quelque chose dans notre vie qui est difficile à quand on réalise sur le coup, quand on le traverse, quand on a ce regard de la seconde et qu'on se dit mais combien c'est dur l'épreuve que je traverse. Oui, mais quand on a ce regard divin, que par la grâce de Dieu, par la foi, on est capable de dire Seigneur, tout ce que tu fais est parfait. Peut-être que maintenant, en ce moment-là, je ne comprends pas telle situation. Je ne comprends pas telle parole que j'ai entendue qui m'a blessé. Je ne comprends pas telle maladie que je traîne. Seigneur, je ne comprends pas. Mais je sais, par la foi, que tout ce que tu fais est parfait. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et tout ce que Dieu fait durera toujours. Alors oui, je veux saisir la vie de Dieu présente. Et je crois que ça ne sert à rien d'essayer de remplir l'océan avec des petites bouteilles. Ce monde est comme un monde rempli de bouteilles d'eau qui voudrait essayer de remplir un océan. Mais le cœur de l'homme, il a la pensée de l'éternité. Et il faut quelque chose d'éternel pour remplir ce cœur qui a la pensée de l'éternité. La seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. La seule chose qui est éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Alors ce soir, que nous puissions, ben oui, être conscients que la vie sur terre, elle est fragile, elle est futile, il y a toutes ces choses-là, d'un point de vue humain, mais que Dieu, par sa grâce et son Saint-Esprit, veut nous donner d'avoir des promesses, veut nous donner d'avoir surtout ce pardon avec lui, d'avoir la paix avec Dieu, et d'être capable de jour après jour marcher avec sa présence dans notre cœur qui nous permettra de résister au péché, qui nous permettra de tenir bon malgré les épreuves, malgré les ténèbres, malgré le vent qui souffle, peu importe, parce que le Seigneur est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors ce soir, ben, si Dieu n'est pas pour vous, demandez, priez au Seigneur. Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux que tu sois dans mon cœur. Je veux qu'on soit du même côté. Parce que comme ça, j'aurai cette espérance d'être un jour avec toi. Et j'aurai aussi cette possibilité de répondre à cette question par laquelle on a commencé. Est-ce que la vie peut avoir un sens sans Dieu? Ben non. Et tout ce qui va donner du sens à ma vie, la seule chose, du moins, qui va donner du sens à ma vie, c'est Dieu, la présence de Dieu dans ma vie. Alors, c'est ça que je désire ce soir. Seigneur, viens remplir mon cœur de ta présence. Amen. Merci, Éternel. Merci, parce que c'est vrai que tout ce que tu fais, c'est parfait. Et tout ce que tu fais durera toujours. Merci parce que tu as offert le sacrifice parfait qui encore aujourd'hui a ses conséquences sur quiconque va croire dans ce sacrifice. Il va pouvoir être sauvé, il va pouvoir être pardonné, il va même pouvoir être guéri s'il place sa foi dans le sang qui a coulé, s'il place sa foi dans cette œuvre incroyable que tu as accomplie, Seigneur. Oui, c'est vrai, tout est accompli. C'est vrai que aussi tout est jugé. Tout ce que nous pouvons faire sera jugé un jour. Alors Seigneur, nous voulons prendre la bonne décision ce soir, afin que nous ne soyons pas condamnés, mais qu'au contraire, nous soyons récompensés dans ta présence, Seigneur. Merci pour aussi ta parole qui nous renferme toutes ces promesses, qui encourage notre foi, qui sont des paroles qui ne sont éternelles. C'est vrai que même si la terre et le ciel peuvent passer, ta parole ne passera point, Seigneur. Alors nous voulons remplir nos cœurs aussi de ta parole, de ton pardon, de ta grâce, de ta paix, de toutes ces choses qui coulent de ta présence, Seigneur. Oui, ce soir, tu connais les cœurs. Tu sais ceux qui ont besoin d'être remplis de toi tout simplement, ceux qui ont besoin d'être ramenés dans ta présence alors qu'ils s'en étaient éloignés peut-être. Seigneur, toi tu connais parfaitement les cœurs, toi, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Ce soir, par ton esprit, fais une œuvre dans chacun, Seigneur. Parle, communique une vérité qui va nous amener à ta lumière, Seigneur. Que nous ne soyons pas seulement sous la lumière du soleil, mais que nous soyons surtout à ta lumière, à toi, sous la lumière de ta parole, Seigneur. Et que dans ces moments, tu puisses éclairer les cœurs. et que, Seigneur, dans ces moments, des décisions puissent être prises par rapport à l'éternité, Seigneur. Merci, merci parce que tu es celui qui a tout préparé. Oui, tout est prêt à nous recevoir dans ton ciel, Seigneur. Et quel bonheur cela sera quand nous serons avec toi. Merci parce qu'aujourd'hui, encore maintenant, tu nous donnes ton esprit qui nous permet de résister à toutes les tentations, toutes les situations que nous pouvons traverser, Seigneur. Combien tu es bon, combien nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Merci de bénir encore ces moments et chacun d'entre nous pour ta gloire éternelle. Amen.